Vous écoutez
RMC.
RMC Bourdin Direct.
Jean-Jacques Bourdin.
Notre invité Bruno Retailleau, bonjour.
Bonjour Jean-Jacques Bourdin.
Je rappelle que vous êtes président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de Vendée et candidat à la présidentielle de 2022. C'est important parce qu'on va vous parler et je vais vous parler de présidence. Et la présidence aux États-Unis. Vous avez vu ce qui s'est passé aux États-Unis avec le Capitole envahi par les supporters de Donald Trump. Quatre morts. Nous ne concéderons jamais la défaite, disait Trump quelques heures avant. Il était à la tribune. On va marcher. Je serai à vos côtés au Capitole. Vous ne répondrez jamais. Vous ne reprendrez jamais notre pays avec de la faiblesse. Il faut montrer de la force. Ses partisans ont montré de la force. Le monde entier est ébahi. Vous aussi, j'imagine.
Bien sûr, j'ai suivi quasiment en direct hier soir grâce aux différentes chaînes d'information, ces événements, c'est tragique. C'est tragique parce que les États-Unis, dans le monde, sont le cœur battant de la démocratie. C'est tragique parce que les paroles peuvent tuer. La responsabilité de Donald Trump, elle est accablante. La démocratie, c'est un régime de liberté, mais c'est aussi un régime de responsabilité, où ceux qui gouvernent doivent rendre des comptes de leurs actes, mais aussi de leurs paroles.
Est-ce qu'il devra rendre des comptes ?
Bien sûr, il devra rendre des comptes.
Est-ce qu'il faut engager un processus de destitution ?
Le processus de destitution américain obéit à des règles très strictes, très très longues. Et vous savez que la prise de pouvoir, la transition, c'est pour le 20 janvier. Donc on n'a plus le
13
temps.
Jours de présidence Trump.
Il y a 13 jours de présidence. Peu importe, je ne connais pas à fond les amendements de la Constitution américaine. Mais je pense qu'il faudra bien entendu qu'il puisse répondre de ces paroles qui ont amené à la violence.
Est-ce que la situation est dangereuse ? Dangereuse pour les États-Unis, mais dangereuse pour le monde ?
Bien sûr, parce que, encore une fois, les États-Unis, c'est un peu une démocratie phare dans le monde. Et j'imagine que...
Chinois se gausser, déjà, les internautes chinois, par exemple.
Tous les régimes totalitaires, dictatoriaux, doivent avoir le sourire aux lèvres. Ce que je veux dire, c'est qu'on aurait tort d'accabler uniquement M. Trump, de réduire la responsabilité à M. Trump. Il a cette responsabilité, je viens de le dire. Je pense qu'on aurait tort surtout de dire que tout ça ne peut pas nous arriver. Je pense que le malaise des démocraties occidentales, il est présent. Il a surgi aussi au cœur de l'Europe. Lorsqu'on a vu des députés d'extrême droite, par exemple de l'AfD en Allemagne, élus il y a quelque temps en nombre et dans d'autres pays européens. Mais ça concerne aussi la France. Je pense que le malaise de la démocratie, c'est un petit peu, vous savez, la révolte des déplorables, comme avait dit Madame Clinton. Elle avait accusé l'électorat de Monsieur Trump de déplorables, des gens infréquentables. Il y a une partie de la population française. Ça a été, au départ, le message des Gilets jaunes. On veut être entendu. Nous sommes des travailleurs pauvres. On n'arrive pas à boucler les fins de mois, mais on a le sentiment qu'en France, il y a des politiciens.
La différence, c'est qu'aux États-Unis, ce ne sont pas toujours des travailleurs pauvres qui soutiennent Donald Trump.
Bien sûr. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le malaise de la démocratie, il est aussi chez nous. Il est dans ce fait que beaucoup de Français ont le sentiment que le pouvoir a été confisqué, que leur voix, leur souffrance ne compte plus, qu'elles ne sont pas entendues. Il y a une forme de dévaluation de la démocratie parce qu'aujourd'hui, la démocratie, dans un certain nombre de pays, y compris d'ailleurs en France, ne parvient pas à donner de résultats pour améliorer la condition matérielle des gens. Et ça, je pense qu'il faut le prendre aussi à notre compte. On ne peut pas dire simplement, c'est là-bas, outre-Atlantique.
Oui, Emmanuel Macron a réagi en disant ne rien céder à la violence. Bon, mais c'est insuffisant ?
Bien sûr que c'est insuffisant, bien sûr. Parce que je pense qu'on le voit, c'est que dans une nation, la concorde nationale, la paix civile, c'est la première chose qu'on demande à l'État, évidemment. Et il faut faire attention de ne pas attiser...
Et reconnaître le résultat d'une élection.
Reconnaître, bien sûr. La démocratie, c'est un régime de responsabilité. C'est aussi ce régime où la minorité s'incline devant la majorité. C'est un peu la loi du nombre, la démocratie. C'est exigeant. Et il a fallu des années, des siècles pour qu'on puisse bâtir ce régime qui est un régime d'effort, un régime d'exigence, d'effort aussi pour le peuple et d'exigence pour ceux qui les gouvernent.
Puisque la démocratie américaine est menacée par le populisme des supporters de Donald Trump et par Donald Trump, est-ce que la démocratie française est menacée par un populisme représenté, je ne sais pas, par qui ?
Je ne veux pas.
Bruno Retailleau.
Je ne veux
non,
pas
je vous dis ça
aller.
Parce que je vous dis ça parce que Marine Le Pen, par exemple, Marine Le Pen n'a jamais reconnu la défaite de Donald Trump.
Eh ben, c'est une faute politique. C'est
Bruno Retailleau.
Eh bien, c'est une faute politique. Maintenant, laissez-moi vous dire que dans beaucoup de démocraties occidentales, il n'y a pas Marine Le Pen dans chaque pays. Il y a ce malaise. Et ce malaise, en France, il est aussi à mettre sur le compte. On le voit d'ailleurs dans la gestion de la crise sanitaire. Cette bureaucratie qui n'a pas comme objectif de protéger les Français du virus, mais qui a l'objectif de se protéger. Toujours plus de paperasse, parce que ce qui compte pour elle, ça n'est pas précisément d'aller vite pour vacciner, mais c'est de protéger ses arrières. Eh bien, quand on a cette bureaucratie, cet état bureaucratique qui fait sécession avec le peuple, avec la nation, alors on crée des conditions. Vous voyez Jean-Jacques Bourdin,
oui.
D'une forme de sécession.
J'ai vu aussi une réaction, celle de Jean-Luc Mélenchon, qui a tweeté. Voilà ce qu'il a tweeté. Les États-Unis, organisateurs de putsch, truqueurs d'élections, en proie chez eux à leur propre méthode, justice immanente.
Non mais vous allez trouver évidemment tout le cœur des démagogues. Je n'utilise pas le mot populisme, parce que souvent le mot populisme, en réalité, c'est un affront au peuple. Je préfère utiliser le mot de démagogue. Mais vous voyez, l'extrême droite, l'extrême gauche, eh bien, la démagogie est à l'œuvre. Mais ça ne suffit pas. Je pense que Emmanuel Macron a des responsabilités aussi. Et lorsque, par des petites phrases, lorsqu'il disait des gens de rien...
Mais la classe politique aussi.
Mais bien
l'opposition
sûr.
Aussi, parfois, par des phrases excessives. Par des mensonges, par de fausses informations répandues.
Mais, évidemment, le mensonge des masques, par exemple, a beaucoup choqué les Français. Aujourd'hui, les Français sont en colère vis-à-vis des lenteurs du démarrage de la campagne de vaccination. Mais pas seulement. À la colère a succédé un sentiment, pratiquement immédiatement d'ailleurs, de honte nationale.
Mais
c'était une blessure.
Est-ce que ce n'est pas excessif, non. Cette critique sur la lenteur du démarrage de la vaccination?
Jean-Jacques Bourdin, vous auriez pu me poser la même question, et je me souviens au mois de mars, un certain nombre de mes amis disaient « Bruno, sur les masques, tu y vas trop fort ». J'avais à l'époque bloqué avec Gérard Larcher, si j'ose dire, le gouvernement, un ministre dans l'hémicycle tard au Sénat, pour les obliger à ouvrir les vannes pour que les collectivités et les entreprises puissent commander des masques, et heureusement que nous l'avons fait.
Mais vous avez cité
on n'a pas tiré.
Oui, vous avez cité Gérard Larcher, mais quand Gérard Larcher brandit un document qui est un document qui n'est pas du tout adressé à son père, mais adressé au directeur des FAD.
C'est faux.
Comment c'est faux?
C'est faux. Peut-être a-t-il été adressé.
Adressé au directeur des EHPAD.
Le père de Gérard Larcher,
il est
95 ans. Non, le père de Gérard Larcher, résident dans un EHPAD, a retrouvé sur son bureau, dans sa résidence, ce document.
Oui, qui est adressé à la direction de
l'EHPAD. Il était dans son bureau. C'est un stress inutile. Oui. Vous avez des personnes... Je me souviens de M. Thévenoud qui disait avoir des blocages administratifs. Mais vous imaginez quelqu'un de 95 ans et on vous pose sur la table, pour le consentement, un document qui fait des dizaines de pages. Gérard Larcher n'a pas fait d'erreur. Gérard Larcher n'a pas menti. Ce document, il l'a montré. Ce document était bien dans la chambre de l'EHPAD.
Oui, c'était
papa.
Pas le document de consentement, il fait une page, le document
mais
de consentement.
Pourquoi il était distribué?
Mais je suis d'accord, trop de bureaucratie, trop
bien
de paperasserie, on est bien d'accord, une logistique totalement absente.
Et bien voilà.
Toutes les critiques sont recevables.
Vous étiez en train de dire la démocratie. Démocratie. Mais Jean-Jacques Bourdin, permettez à l'opposition d'exprimer ses critiques.
Oui, d'ailleurs, vous êtes
de faire son devoir.
Vous êtes là pour l'exprimer.
D'opposition, parce que c'est la démocratie. Oui. Et dans une crise, alors qu'on a gonné au gouvernement avec l'état d'urgence, vous savez que le gouvernement a des pouvoirs qui sont très très étendus. Vous savez que le gouvernement ne lésine pas avec l'argent des Français. Puisque le quoi qu'il en coûte, c'est des milliards.
Vous l'approuvez, le quoi qu'il en coûte?
Je l'approuve. Pour la sortie de crise. Malheureusement, je sais que ce quoi qu'il en coûte...
Vous approuvez les aides, par exemple, apportées aux restaurateurs, ou les aides apportées à tant de PME,
tant
d'entreprises.
Évidemment, ce que je critique, c'est un État obèse, bureaucratique, qui dépense, qui n'a comme réflexe que la dépense publique, qui n'arrive plus à agir. Et les Français n'en ont pas pour leur argent. C'est ce que je dis, moi, aujourd'hui. Ils n'en ont pas pour l'argent. On leur dit qu'ils ont le meilleur système de santé au monde. Ils s'aperçoivent que non. Ils sont aperçus.
Le plus protecteur, dans tous les cas.
Non, pas plus protecteur. Souvenez-vous de ces soignants qui étaient obligés de se tailler dans des sacs poubelles, des surblouses. Regardez pour l'école. On dépense beaucoup pour l'école. Et on est parmi les moins bons sur le niveau de mathématiques. Regardez sur la délinquance. Voilà, ce sont des missions essentielles, la santé, l'éducation, la sécurité, que l'État, malheureusement trop bureaucratisé, ne parvient pas
alors
à mener à bien.
Comment faire pour débureaucratiser cet État ? Supprimer des agents publics ? Bruno Retailleau, comme le suggérait François Fillon ?
Eh bien, Jean-Jacques Bourdin, si la mesure du bonheur national, si la prospérité des Français devait se mesurer au nombre de fonctionnaires, nous serions l'avant-garde planétaire de ce bonheur et de la prospérité. Comment expliquez-vous, Jean-Jacques Bourdin, qu'il y ait 50% de plus de personnel en France par lit par rapport à l'Allemagne dans les hôpitaux, alors qu'on est dans la situation que l'on connaît ? Pourquoi ? Parce que 35%, 34% de personnel administratif non soignant à l'hôpital. Et les Allemands...
Donc trop.
Donc, bien sûr qu'il faut revaloriser. Pourquoi est-ce que nos infirmiers... Pourquoi est-ce qu'on est au 19e rang pour la rémunération des infirmiers ? On est en train de paupériser nos fonctionnaires. Pourquoi est-ce que les jeunes agrégés, les jeunes certifiés professeurs gagnent des salaires de misère ? C'est lamentable, vous voyez, parce que on a une fonction publique qu'on n'a pas voulu réformer, parce qu'on n'a pas voulu, recentrer l'État sur un périmètre de ses propres actions, eh bien, on paupérise nos fonctionnaires. Je pense que, et regardez la logistique, l'important c'est la culture du résultat, peu importe que ce soit une entreprise.
Vous avez vu que Monsieur Vaccin va être accompagné d'une Madame logistique, hein, vous avez vu ça.
Monsieur Vaccin qui sera là demain matin,
le professeur
Fischer. Rien n'a pris de nos erreurs. Elle est une énarque. Le général Georgelin, plutôt que de le mettre à la tête du chantier de la restauration de Notre-Dame, alors qu'on a les meilleurs architectes en chef des monuments historiques qui savent faire en France, on aurait bien dû mettre un général, justement, à la tête de la logistique. On aurait dû s'appuyer sur le privé. On aurait dû s'appuyer sur les collectivités territoriales. Quand on dit il y a trop de bureaucratie, il y a trop de centralisme parisien. Et moi, je veux que les collectivités puissent précisément prêter main forte.
Alors, justement, je vais vous parler de la vaccination, mais je voudrais vous parler de la situation. 25 379 nouveaux cas en France en 24 heures. L'épidémie est en train de progresser. Est-ce que, j'ai entendu, comme vous, le professeur Jean-François Delphine, hier soir à la télévision, des mesures de restriction plus strictes sont envisagées, indispensables si ça continue à progresser.
Ce qui est indispensable, c'est d'accélérer la campagne de vaccination. Aujourd'hui, ça n'est pas un problème de pénurie.
C'est pas le vaccin à court terme,
non,
qui va éradiquer cette épidémie.
C'est un cri d'alarme que je veux lancer ce matin.
Allez-y.
Le vaccin, c'est l'espoir. C'est l'espoir, et chaque jour que l'on perd, ce sont des chances en moins de sauver des vies. Chaque jour que l'on perd, et c'est la souffrance sociale, la souffrance économique, parce que c'est repousser la reprise, justement, le redémarrage de notre économie. Je pense que, on n'utilise que 2% des doses aujourd'hui. Donc, il faut multiplier, évidemment, il y a un certain nombre de choses que nous avons proposées.
12 000 vaccinations hier.
Oui, bien sûr, il y a une accélération, mais il y a 2%. Donc, les vaccinodromes, mobiliser pas seulement les médecins, les infirmiers, les pharmaciens, les collectivités aussi. Pourquoi est-ce que dans les EHPAD...
Encore faut-il avoir toutes les doses.
J'ai été président de département. Oui. Pourquoi est-ce que les départements, vous savez, qui exercent avec l'État la tutelle des EHPAD, pourquoi les départements ont-ils été tenus à l'écart de cette campagne de vaccination ? Donc, il faut mobiliser, mais tout le monde, et la logistique, il faut la revoir. Ce que je veux vous dire, c'est que le confinement, un reconfinement éventuel, c'est, je pense... une mauvaise solution. On a aujourd'hui abdiqué. Pourquoi est-ce que les solutions qu'ont trouvées les grandes démocraties asiatiques, sans vaccin, elles sont parvenues à reprendre le contrôle sur les chaînes de contamination, sur l'épidémie? Pourquoi? Eh bien, en dépistant, en traçant et en isolant. Pourquoi est-ce que nous, on n'arrive pas à isoler les malades qui sont malheureusement contagieux? Moi, je préfère confiner les malades.
Pourquoi
plutôt
on n'arrive pas à isoler?
Voilà.
Pourquoi?
Par l'INSERM, vous savez qu'il y a
pourquoi
un
est-ce qu'on n'arrive pas
parce qu'on ne le veut pas. C'est exactement pour la vaccination. C'est la limite du en
alors
même
comment
temps.
Faire comment faire pour obliger
juste un mot. Je pense que le en même temps
oui.
Qui est le credo du chef de l'État, c'est le choix de l'inaction. Pourquoi ? Parce que sur la vaccination, en réalité, qu'est-ce qu'on a cherché à faire ? On a cherché à ménager les pro-vaccins et les anti-vaccins, en essayant justement, à force de paperasserie et de précaution, de retarder le démarrage, en réalité, pour essayer d'avoir un pied dans un camp et un pied dans l'autre. Eh bien, le « en même temps », c'est l'inaction. Alors, faut agir.
Alors, je voudrais vous poser une question à propos de la vaccination. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire ? Je vous dis ça parce qu'en Allemagne, par exemple, où des vaccinodromes ont été installés, certains sont vides parce que les Allemands ne viennent pas se faire vacciner. Est-ce qu'il faut obliger les Français à être vaccinés ?
Je pense que ça n'a aucun sens. Aujourd'hui,
pourquoi
il y a
aucun sens ?
Dizaines...
On oblige bien les enfants à être vaccinés pour s'inscrire à l'école.
Oui, mais vous savez que l'obligation scolaire, de scolarisation, dépasse l'obligation vaccinale. Parlez à des médecins scolaires qui vous diront que malheureusement,
Je vais vous donner un autre exemple.
C'est que le problème, il n'est pas là. Vous avez des dizaines de millions de Français qui veulent se faire vacciner et qui ne le peuvent pas. Donc avant de penser à un passeport vaccinal, à une obligation vaccinale, il faut
Vous êtes contre le passeport vaccinal et l'obligation vaccinale.
Aujourd'hui, oui, parce que je pense que le volontariat... Et d'abord, vous allez mettre quelles sanctions ?
Attendez, 38% des Français sont déterminés à se faire vacciner. Seulement 38%.
Mais évidemment,
45% ne le souhaitent pas.
On a tout fait pour les décourager. Y a-t-il eu une campagne de communication ? Et encore une fois, avec les précautions que le gouvernement a prises, sans doute pour satisfaire, pour donner des gages aux anti-vaccins, en réalité, on a découragé les bonnes volontés. Donc, croyez-moi, quand les Français s'apercevront que ceux qui sont vaccinés pourront aller librement et ne propageront pas le virus...
Faut-il rendre la vaccination obligatoire pour les soignants ?
Pour les soignants, j'avais proposé, vous voyez.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Je l'avais proposé. En tout cas, je pense qu'à tout le moins, pour les soignants, ils doivent être un public prioritaire, dès maintenant, quel que soit leur âge et quel que soit les facteurs de comorbidité. C'est trop important, ils doivent se protéger parce qu'ils sont en première ligne, de même qu'il faut qu'ils protègent les soignés. On ne sait pas encore si le vaccin protège les contaminations, mais il y a de bonnes chances qu'il le fasse.
Vous savez que pour les soignants, le vaccin est obligatoire contre la diphtérie, le tétanos, je regarde mes notes, la polio, l'hépatite B, la tuberculose.
Jean-Jacques Bourdin, j'ai proposé il y a quelques semaines, au mois de décembre, au gouvernement, dans ses priorités, qu'on fasse les plus fragiles dans les EHPAD et qu'on fasse le personnel soignant. J'avais émis cette idée.
Commencer par les plus fragiles dans les EHPAD, c'était la bonne solution. C'est la bonne solution.
Oui, parce qu'on ne sait pas, encore une fois, si le vaccin est une barrière contre les contaminations.
Alors. Est-ce que les départements, les régions doivent, comme le demandent certains présidents de région, commander, acheter directement des doses de vaccins ?
Moi, je pense... Ça passe par l'Union européenne, donc je pense qu'il y aura une difficulté. En revanche...
D'approvisionnement,
mais une difficulté parce que c'est aussi une question de souveraineté. Et on ne peut pas acheter des vaccins comme on achète des masques. Mais je pense que les collectivités, régions et départements, comme les communes, on doit les mettre, si j'ose dire, là aussi en première ligne. Parce que quand il va falloir trouver des gymnases, des salles par exemple de collège, des salles de lycée pour vacciner, on a besoin, je vous parlais des départements qui peuvent mobiliser des infirmières, qui ont des ressources médicales. Notamment parce qu'il y a des médecins de PMI, parce qu'il y a des médecins gériatres, etc. Il faut les mobiliser, les collectivités. Et malheureusement, le gouvernement ne le fait pas.
Bruno Retailleau, j'ai une dernière question sur la loi sur la sécurité globale.
Oui.
Où en êtes-vous ? C'est le Sénat qui doit réécrire le fameux article 24 qui pénalise la diffusion malveillante d'images des forces de l'ordre. Où en êtes-vous ?
Eh bien, nous allons le réécrire.
Quand ?
Nous allons le réécrire.
Quand ?
J'en parlais hier avec François-Noël Buffet, qui est le président de la commission des lois. Nous le réécrirons.
Quand ?
Nous le réécrirons quand le texte... Alors, il est pratiquement écrit. Le texte va arriver à
la
mi-mars. Parce
que vous avez rappelé à juste raison, que c'est le Sénat qui doit réécrire le texte.
Bien sûr.
À juste raison. Mais vous aviez dit qu'il serait réécrit très vite. Or, il ne sera réécrit qu'en mars.
Non, mais le texte, c'est pas moi qui contrôle l'ordre du jour du Sénat. Le gouvernement va faire passer ce texte-là à la mi-mars.
Vous le regrettez ? Il aurait dû passer plus vite ?
Peu importe. Ce que je veux dire, nous, c'est que, on ne touchera pas à la liberté d'informer. Et à l'idée que la captation elle-même des opérations policières pourrait ne pas être filmée. On s'inscrira dans le cadre du code pénal et non pas de la loi sur la liberté sur la presse, et on mettra des verrous justement pour que la liberté d'information puisse être sauve. Mais je crois qu'il y a un vrai problème. Des individus veulent désigner des policiers, des gendarmes, et notamment leur identité pour que on puisse faire des représailles sur eux, on a le devoir de les protéger. Et je pense que le Sénat peut être cette institution qui va trouver le bon équilibre entre, d'un côté, la liberté de l'information, évidemment, et puis de l'autre côté, la protection de ceux qui
Il y avait la solution aussi d'une fusion avec l'article 18 confortant de la loi, confortant les principes de la République.
Je pense que ce sont deux articles très proches, et je pense que nous, c'est-à-dire qu'on prendra le premier texte, et c'est avec l'article 24 qui va nous arriver avant, puisque le premier texte, c'est
avant,
sécurité locale. Ensuite, ce sera le texte avec l'article 18 sur les principes républicains. Mais ce travail-là, nous le ferons dès le premier texte.
Fusion entre les deux articles.
Ça sera une sorte de fusion.
Entre les deux articles.
Je ne veux pas trop en dire.
Entre les deux articles.
Entre les deux articles.
Bien, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Bonheur d'être venu nous voir ce matin sur RMC et BFM TV.